Origine de la logique. Comment la logique s'est-elle formée dans la tête de l'homme? Certainement par l'illogisme dont, primitivement, le domaine a dû être immense. Mais une quantité innombrable d'êtres qui déduisaient autrement que nous le déduisons maintenant a dû disparaître. Cela semble de plus en plus vrai. Celui qui, par exemple, ne parvenait pas à découvrir assez souvent les similitudes quant à la nourriture, ou encore quant aux animaux qui étaient ses ennemis. Celui donc qui établissait trop lentement des catégories, ou qui était trop circonspect dans la subsomption, diminuait ses chances de durer. Plus que celui qui, pour les choses semblables, concluait immédiatement à l'identique. Pourtant, c'est un penchant prédominant à traiter, dès l'abord, les choses semblables comme si elles étaient identiques. Un penchant illogique, en somme, car en soi, il n'y a rien d'identique. Qui est le premier, crée le fondement de la logique. De même, il fallut pour que se formât le concept de substance, indispensable pour la logique, bien qu'au sens strict rien de réel n'y correspondît, que longtemps, ce qu'il y a de changeant aux choses ne fut ni vu ni senti. Les êtres qui ne voyaient pas très exactement avaient une avance sur ceux qui voyaient les fluctuations de toutes choses. En soi, toute extrême circonspection à conclure, tout penchant sceptique est déjà un grand danger pour la vie. Aucun être vivant ne serait conservé si le penchant contraire d'affirmer plutôt que de suspendre son jugement, de se tromper et de broder plutôt que d'attendre, d'approuver plutôt que de nier, de juger plutôt que d'être juste, n'avait été développé d'une façon extrêmement intense. La suite des pensées et des déductions logiques, dans notre cerveau actuel, correspond à un processus, à une lutte d'instinct, en soi fort illogique et injuste. Nous ne percevons généralement que le résultat de la lutte, tant cet antique mécanisme fonctionne maintenant en nous, rapide et caché. Cause et effet. Nous appelons explication ce qui nous distingue des degrés de connaissance et de science plus anciens. Mais ceci n'est que description. Nous décrivons mieux. Nous expliquons tout aussi peu que tous nos prédécesseurs. Nous avons découvert de multiples successions, là où l'homme naïf et le savant de culture plus ancienne ne voyaient que deux choses. Ainsi que l'on dit généralement, la cause et l'effet. Nous avons perfectionné l'image du devenir, mais nous n'avons pas dépassé l'image au-delà de l'image. La suite des causes se présente dans tous les cas plus complète devant nous. Nous déduisons. Il faut que telle ou telle chose ait précédé pour que telle autre suive. Mais par cela, nous n'avons rien compris. La qualité, par exemple, dans chaque phénomène chimique, apparaît, avant comme après, comme un miracle. De même, tout mouvement en avant. Personne n'a expliqué le choc. D'ailleurs, comment serions-nous expliqués? Nous ne faisons qu'opérer avec des choses qui n'existent pas, avec des lignes, des surfaces, des corps, des atomes, des temps divisibles, des espaces divisibles. Comment une interprétation saurait-elle être possible si, de toute chose, nous faisons d'abord une image, notre image? Il suffit de considérer la science comme une humanisation des choses, aussi fidèle que possible. Nous apprenons à nous décrire nous-mêmes toujours plus exactement en décrivant les choses et leur succession. Cause et effet. Voilà une dualité comme il n'en existe probablement jamais. En réalité, nous avons devant nous une continuité dont nous isolons quelques parties. De même que nous ne percevons jamais un mouvement que comme une série de points isolés, en réalité, nous ne le voyons donc pas, nous l'inférons. La soudaineté que mettent certains effets à se détacher nous induit en erreur. Cependant, cette soudaineté n'existe que pour nous. Dans cette seconde de soudaineté, il y a une infinité de phénomènes qui nous échappent. À l'intellectuel qui verrait cause et effet comme une continuité, et non à notre façon comme un morcellement arbitraire, qui verrait le flot des événements, nierait l'idée de cause et d'effet et de toute conditionnante. Pour la science des poisons. Il faut réunir tant de choses pour que naisse une pensée scientifique. Et toutes les forces qui y sont nécessaires ont dû être inventées, exercées et entretenues séparément. Mais dans leur isolement, elles ont souvent produit un effet tout différent de celui qu'elles produisent maintenant, où elles se restreignent dans les limites de la pensée scientifique et se disciplinent réciproquement. Elles ont agi comme des poisons. Voyez par exemple l'instinct du doute, l'instinct de négation, l'instinct temporisateur, l'instinct collectionneur, l'instinct dissolvant. Des hécatombes d'hommes ont été nécessaires avant que ces instincts aient appris à comprendre leur juxtaposition et à se sentir réunis en tant que fonction d'une seule force organique dans un seul homme. Et combien nous sommes encore éloignés de voir se joindre à la pensée scientifique, les facultés artistiques et la sagesse pratique de la vie, de voir se former un système organique supérieur par rapport auquel le savant, le médecin, l'artiste et le législateur, tels que nous les connaissons maintenant, apparaîtraient comme d'insuffisantes antiquités. Limite du domaine moral. L'image que nous voyons pour la première fois, nous la construisons immédiatement à l'aide des vieilles expériences que nous avons faites chaque fois, selon le degré de notre probité et de notre équité. Même dans le domaine de la perception des sens, il n'est d'autre expérience vécue que morale. Les quatre erreurs. L'homme a été éduqué par ses erreurs. En premier lieu, il ne se vit toujours qu'incomplètement. En second lieu, il s'attribue à des qualités imaginaires. En troisième lieu, il se sentit dans un rapport faux vis-à-vis des animaux et de la nature. En quatrième lieu, il inventa des tables du bien toujours nouvelles, les considérant pendant un certain temps comme éternelles et absolues, en sorte que, tantôt à l'instinct humain, tantôt à l'autre, occupait la première place, anobli par suite de cette appréciation. Déduit-on l'effet de ces quatre erreurs, on soustraira en même temps les notions d'humanité, de sentiment humain et de dignité humaine.